Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 février et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission, sachant que oui, c'est le retour d'Andy puisque je ne suis plus toute seule. Salut Andy, comment ça va ?
Salut Marie, ça va mieux depuis la semaine dernière, hein. Je suis enfin de retour.
Et oui,
et toi, comment
évidemment,
ça va ?
très bien, très contente de pouvoir à nouveau animer l'émission à deux. Émission dans laquelle on va parler aujourd'hui de l'accueil de ces quatre familles lavalloises, ces quatre familles afghanes pardon, à Laval qui vont arriver d'ici quelques jours. Et puis on va également parler de cette résidence du photojournaliste Arnaud Rouanet qui commence à être bien connu dans le département. Résidence qui commence auprès de Mayenne et de Mayenne Communauté autour de la santé mentale chez les jeunes. Elle se poursuivra jusqu'au mois de mai, voire un petit peu plus tard. On va entendre aussi la chronique cinéma d'Audrey d'Atmosphère 53, comme chaque mardi. Et puis on poursuit tranquillement notre feuilleton dédié cette semaine aux activités à faire en Mayenne pour les vacances. Activités variées, on l'espère. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Et aujourd'hui, on va s'entraîner, et oui, géo oblige, au biathlon et au laser run. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité, Andy. Le nombre de morts sur les routes mayennaises et le nombre d'accidents corporels est en hausse en 2021.
C'est la préfecture qui l'indique. On dénombre 25 décès sur nos routes, soit 16 de plus par rapport à l'année précédente. Plusieurs pistes ont été avancées par la préfecture pour expliquer le nombre de décès élevés, comme la consommation d'alcool, les malaises au volant et bien sûr la vitesse qui, elle seule, représente une très grosse partie de l'accidentologie dans notre département.
Et un jeune homme de 16 ans a perdu la vie dans un accident.
Et oui, le drame s'est passé vers 7h30 ce matin entre la chapelle Rinsoin et Montsûr. La collision entre le scooter que le jeune de 16 ans conduisait et un véhicule utilitaire qui circulait dans l'autre sens serait intervenue pendant un dépassement selon les gendarmes. L'enquête est en cours et la circulation était toujours bloquée vers 9h30 ce matin. Et c'est le premier accident mortel sur les routes mayennaises en 2022.
Et puis un autre accident survenu cette nuit à Laval a fait 4 blessés.
Vers 2h du matin, une voiture a percuté seule un arbre sur le boulevard du 8 mai 45. À son bord, 4 personnes âgées d'une vingtaine d'années. Elles ont été légèrement blessées et transportées au centre hospitalier de Laval.
3,4 milliards d'euros engagés dans la région jusqu'en 2027.
Dans le cadre du contrat de plan État-Région qui sera signé le 25 février au Mans, ce qui correspond à un investissement de 611 euros par habitant, financé à 50% par l'État et 50% par la région. Ce plan a pour but de rénover les campus universitaires, valoriser le patrimoine et le spectacle vivant et soutenir des projets autour de la transition écologique et de l'emploi.
Et justement, en parlant d'emploi, les entreprises du pays de Mélégré recrutent.
En effet, Marie, un job dating est organisé jeudi de 9h à 14h au pôle intercommunal situé au 1 voie de la Guiternière à Mélégré-du-Maine. De nombreuses offres d'emploi sont à pourvoir dans différents secteurs d'activité. Les offres seront en consultation toute la journée avec possibilité de déposer un CV et de passer un pré-entretien sur place.
Nous ne devons surtout pas nous habituer à cette situation.
Réaction du député Guillaume Garot et du maire de Laval Florian Berco à cette nouvelle fermeture des urgences pendant la nuit à Laval jusqu'à lundi matin. Ils demandent au ministre de la Santé l'activation d'une solidarité régionale et interrégionale pour obtenir des renforts humains et la mise en place d'un dispensaire de pré-accueil aux urgences.
Et une première médaille d'or pour nos Français aux JO de Pékin.
Après les 4 médailles d'argent raflées par les Français depuis le début de ces JO, nous avons enfin notre premier médaillé d'or. Et c'est nul autre que Quentin Fillon-Maillet qui est sacré sur l'individuel en biathlon. Malgré 2 erreurs au tir, il obtient son premier titre individuel dans un grand championnat.
Quatre familles afghanes bientôt accueillies en Mayenne. Elles arriveront à Laval à partir du 21 février en provenance de l'Est de la France. C'était un engagement de la municipalité depuis l'été dernier après l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan. Ces quatre familles ont le statut de réfugiés, précise Chantal Blopolis, responsable du service hébergement et accès au logement à la direction départementale de la solidarité et de la protection des populations. Avec Patricia Comer, responsable du service insertion au CCAS de Laval, elle détaille leur profil.
C'est une fratrie de 4 frères qui va être répartie donc dans 3 quartiers différents. Les logements vont être gratuits, loyer plus charge pendant les 6 premiers mois. Et puis ensuite, les personnes vont glisser pour devenir titulaires du bail de leur logement.
La famille qui arrive en premier, un couple avec 5 enfants. Au niveau du monsieur, il parle français. Il est naturalisé français, les enfants sont français. Et monsieur était auto-entrepreneur dans son pays. Madame ne travaillait pas. Ensuite, on a la deuxième famille, là où ils arriveront plutôt vers le 24-25. Là, on a un couple avec 2 enfants. Alors là, le monsieur était avocat. Alors, la troisième famille, c'est un couple avec 1 enfant, où les 2 personnes, en fait, s'occupaient d'une salle de sport et ils étaient coachs sportifs. Puis la troisième famille, couple sans enfant, il me semble que madame donnait des cours d'anglais. On n'a pas eu de renseignements pour le monsieur.
Sur les 4 familles, comme on l'a dit précédemment, une seule parle le français. Par contre, les 3 autres frères qui ont été également rapatriés en France, eux ne parlent que le dari. Et donc, il va y avoir un grand travail à faire sur l'insertion déjà par l'apprentissage de la langue. Les enfants vont être scolarisés tout de suite. Il y a déjà des liens qui ont été faits avec les services de l'éducation nationale.
Et notamment les établissements, le collège Jacques Monod et dans les écoles Charles Perrault et École d'Hilard, pour les aider à équiper leur logement. Plusieurs associations, dont Emmaüs 53 et le Secours Populaire, lancent un appel aux dons, relayé ici par Romain Chaupitre, directeur d'Emmaüs 53.
On peut effectivement venir faire des dons de tout ce qu'il faut pour équiper les appartements, hein, meubles, électroménager, machines à laver, sèche-linge, donc, tout ce que vous pouvez imaginer pour pouvoir vivre dans un endroit, également des jouets pour les enfants, du linge, des assiettes. On peut donner de son temps. On ne sait pas quelle va être la générosité mayonnaise. Peut-être qu'il va y avoir énormément de choses et donc qu'on aura besoin d'un coup de main. Pour ça, on peut passer à l'espace Emmaüs à Laval se signaler ou au Secours Populaire. Ou on peut également faire un mail à l'association contact@emmaüs53.net. Et puis, il y a une troisième solution également, c'est de faire un don monétaire.
Donc vous pouvez faire par chèque ou en ligne sur les sites internet des associations. Les dons matériels, eux, sont à déposer à l'espace Emmaüs 53 à l'arrière du bâtiment, et ce, la semaine prochaine, donc du 14 au 19 février.
Et avant d'écouter l'interview d'Arnaud Rouanet qui veut démontrer les préjugés autour de la santé mentale, on va faire une pause en musique avec Toutelle de Nick Waterhouse.
Know the reason why. Try and find a way to just.
c'était Aaron Taylor, What Do You Do? Petit souci en tout cas dans l'agencement des musiques, hein, c'est moi qui me suis trompée, oui. Mais en attendant, on écoutera bien Nick Waterhouse tout à l'heure. Vous êtes toujours, vous, à l'écoute de l'agité du local sur l'autre radio. Et on va parler de cette nouvelle résidence du photojournaliste Arnaud Rouanet qui veut démonter des préjugés autour de la santé mentale par ses photos. Photos qu'il expose jusqu'à mi-mai à Mayenne dans la cour du château. Ces clichés ont été pris au pôle santé de Mayenne il y a 2 ans, alors que le photographe commence une nouvelle résidence de création avec la ville autour de la santé mentale chez les jeunes cette fois-ci. Un sujet qui lui tient à cœur et qui lui permettra aussi de faire de l'éducation aux médias.
Je m'appelle Arnaud Rouanet, je suis photojournaliste, j'ai 48 ans et je suis installé à Laval depuis maintenant 2018, après une vingtaine d'années de vie parisienne.
Et avec plusieurs résidences en tout cas sur le territoire et notamment celle entamée il y a quelques semaines à Mayenne autour de la santé mentale. Comment est-ce que ça s'est passé dans ces cas-là? C'est-à-dire que c'est un appel à résidence auquel vous avez répondu aussi parce que c'est un sujet qui vous touche. Comment ça s'est passé?
Alors en fait, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est mon intérêt pour ce sujet qui a un peu suscité celui de Mayenne Communauté. J'ai réalisé un reportage il y a 2 ans de ça sur les soignants en santé mentale à l'hôpital de Mayenne, qui est d'ailleurs exposé en ce moment dans le château, dans le parc du château de Mayenne. Et justement, je contactais Mayenne Communauté pour essayer de monter une exposition ou en tout cas exploiter ce travail. Et eux ont souhaité aller beaucoup plus loin avec ce travail et m'ont demandé d'envisager de travailler sur la santé mentale chez les jeunes. Voilà d'où est parti le projet. Et très vite, de cette idée a jailli plein d'autres petites idées ou moins petites d'ailleurs. Donc le reportage, l'intervention dans les écoles, des conférences, une projection au cinéma. Enfin voilà, il y a eu après ça a fourmillé d'envie de la part de leur part à eux et de la mienne.
Puisque donc effectivement ça s'est basé sur un reportage que vous aviez fait il y a 2 ans de ça. À la base, pourquoi vous intéressez plus à ce sujet-là?
Moi, j'ai toujours tendance à aller vers les lieux qui semblent un peu clos, qui aussi sont décrits souvent par des clichés, des stéréotypes. Moi aussi, d'ailleurs, j'avais des idées préconçues sur la santé mentale. Et en réfléchissant au sujet, comme j'essaie de faire mon travail de journaliste, j'ai cherché un angle. Et puis, je me suis dit qu'il y avait déjà énormément de choses sur les patients et finalement, pas tant que ça sur les soignants. Et ça m'a tout de suite questionné. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on fait ces choix de vie, pourquoi est-ce qu'on reste en santé mentale malgré les difficultés grandissantes. Donc voilà, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'était vraiment de la curiosité au départ et l'envie d'aller m'immerger dans un univers un peu fermé, en tout cas qui semblait fermé.
Et vous disiez vous-même, mais je pense comme nous tous, avoir des clichés, en tout cas avant de partir en reportage sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez découvert? Quelles rencontres est-ce que vous avez fait qui vous ont plus marqué peut-être que d'autres?
Moi, j'avais à l'esprit évidemment la folie, au sens pur du terme. Pour moi, la santé mentale, c'était avant tout ça. Et effectivement, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des soignants d'abord complètement investis, passionnés, à l'écoute, d'une empathie dingue. Et ça m'a énormément touché. Mais j'ai aussi côtoyé ces patients qu'on peut désigner comme fous et qui sont pas fous du tout, qui vivent dans un autre univers, je pense, dans leur monde à eux, qui subissent des souffrances incroyables et qui ont un courage fou pour continuer à avancer et essayer de vivre le plus normalement possible. Donc ça a été des vraies rencontres humaines et des vraies émotions de ce point de vue.
Et j'imagine que c'est aussi un travail qui se fait à long terme, puisque quand on arrive avec un appareil photo, ça peut être intrusif, en tout cas, ou perçu comme tel. Est-ce que ça s'est fait petit à petit, ou finalement, même l'intégration s'est fait très rapidement?
Il y a un peu de tout, c'est-à-dire que moi, j'y suis allé vraiment très prudemment au départ. D'abord parce que j'appréhendais peut-être certains univers, peut-être les univers clos, les hospitalisations plutôt que d'ailleurs les externalisations, où là, on est dans la société et tout va à peu près bien. Mais c'est vrai que quand on entre dans un pavillon avec 25 patients qui ont des pathologies très lourdes et qu'on n'est pas habitué à ce genre de rencontre, moi, en tout cas, j'ai eu besoin d'y aller en douceur. Après, je passe pas inaperçu. Je suis plutôt un gros gabarit, donc ça c'est pas possible de disparaître. Donc effectivement, il faut se faire accepter. On pensait que l'appareil photo aurait pu être un souci pour les patients, ça n'a pas été le cas du tout. Mais parce que je suis passé par des phases d'explication et de prise de contact effectivement avant de commencer à travailler. Et j'ai pris le temps de faire des photos parce que j'étais pas j'avais pas de pression moi d'édition, c'était un travail que j'ai produit seul, donc j'avais pas de chef qui me disait quand est-ce que ça sort, donc j'ai pris le temps de le faire et je me suis mis à leur rythme, ouais, ainsi qu'au rythme des soignants, hein, parce que c'est ils évoluent dans un univers où ils ont besoin d'être concentrés, à l'écoute. Donc, quand ils ont un trublion qui leur tourne autour, c'est un élément perturbateur et qui peut avoir une influence sur leur prise en soin aussi. Donc, il a fallu passer par une phase d'observation. Ouais, c'était nécessaire.
Et quelle a été leur réaction, avec un S, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs, lorsqu'ils ont vu votre travail et ce que ça donnait? J'imagine que c'est toujours surprenant, puisqu'on ne se voit pas de l'extérieur, et avec un œil, avec votre œil en plus de photographe.
Ouais, il y a eu beaucoup d'émotions, en fait, je crois. C'est essentiellement ce qui ressort de mes rencontres avec les soignants. Alors, il y a des réactions de patients aussi, hein, qui sont vraiment chouettes. Qui sont très touchantes. Mais pour les soignants qui sont quand même au cœur de ce sujet, ils m'ont fait le plus beau des compliments. Ils m'ont dit, c'est notre vraie vie. C'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on travaille. Donc ça, c'était ce qu'ils pouvaient me dire de plus touchant. Donc ils sont plutôt satisfaits de se voir comme ça, et ils ont vraiment le sentiment que je ne les ai pas trahis. Ça, pour moi, c'était essentiel.
Donc effectivement, tous ces travails-là, ces photos-là, on peut les voir dans le parc du château de Mayenne, c'est ça, jusqu'en mois de mai. Et après, l'idée, ce serait de faire peut-être un peu ce même travail, cet équivalent, auprès des jeunes, c'est ça?
Oui, c'est ça. L'idée est d'aller à la rencontre de tous ceux qui prennent en soin les jeunes, de tout âge d'ailleurs. En pédopsychiatrie, ça s'arrête à 16 ans et quelques mois, hein, d'ailleurs. De manière institutionnelle, donc je vais sans doute aller au-delà aussi, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'institution prend les jeunes en soin, mais aussi comment tout le milieu associatif vient en soutien de cette institution-là. On se rend compte qu'il y a énormément d'associations qui interagissent avec la jeunesse, quelle que soit d'ailleurs les pathologies. Parfois, il n'y a pas de pathologie, hein, c'est juste des détections. Et c'est assez subtil. C'est souvent, encore une fois, là, on est sur un milieu souvent clos. Les jeunes dans l'hôpital public, les mineurs, on ne les approche pas, on les protège, on les préserve énormément, et c'est très bien. Donc là, il faut aussi marcher sur des œufs. L'enjeu de ce travail-là, c'est essayer de dresser un portrait non exhaustif, hein, une sorte d'état des lieux de ce qu'est la santé mentale en zone rurale, dans un département rural. Voilà, à quoi ça ressemble un mal-être chez l'adolescent, par exemple, ou un très jeune qui déclare des symptômes de schizophrénie, ou simplement une petite dépression passagère. Voilà, et comment tout ça impacte la famille, la société, les parents, les frères et sœurs, et comment les associations détectent ça, les écoles aussi, et comment ils les accompagnent pour aller au mieux. Voilà. Donc c'est très ambitieux, mais ça va être absolument passionnant.
Et donc là, on est vraiment dans le tout début de ce projet-là. Vous avez déjà, j'imagine, des contacts, des reportages de prévus. Vous en êtes où dans ce projet ?
Ça fait, ça fait 6-8 mois maintenant qu'on rencontre, je dis on, parce que je suis soutenu très activement par Mayenne Communauté. On rencontre des associations, des acteurs divers et variés, pour essayer d'abord de comprendre ce qu'est la santé mentale chez les jeunes structurellement, j'ai envie de dire, dans le département. Et puis ensuite, d'essayer de convaincre, d'accepter ma présence, et d'aller jusqu'à la prise de vue et l'entretien, voilà, que ce soit avec les acteurs adultes, mais aussi j'ai très envie de rencontrer les jeunes. Donc tout ça demande du temps, il faut convaincre, il faut embarquer tout ce petit monde-là avec nous. Donc ça prend, là, ça vient gentiment, les associations sont vraiment toutes favorables, engagées. Donc ça va démarrer là très très vite après les vacances de février. Et ça va durer sans doute au moins jusqu'au mois de juin. J'aurais sans doute besoin d'ailleurs de continuer après un peu, certainement, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à m'arrêter de toute façon. Mais, et on devrait monter une expo avec tout ça en octobre.
Donc une exposition en octobre accessible au grand public, j'imagine, comme celle qui...
Ah oui, bien sûr, parce que le but, c'est vraiment, encore une fois, c'est d'essayer d'aider à la déstigmatisation de ces maladies, de ces souffrances plutôt d'ailleurs. Oui, bien sûr, ce sera, on va essayer de faire quelque chose qui soit ouvert au plus large public et qui puisse toucher même celui qui n'était pas venu là pour voir une expo, ce qui est un peu le cas dans la cour du château. Donc oui, complètement, on va essayer d'ouvrir ça le plus largement possible. Oui.
Forcément, avec les difficultés qu'on connaît à l'hôpital public aujourd'hui et notamment en pédopsychiatrie, forcément, ça a un écho aussi particulier. Vous n'avez pas choisi ce sujet-là au hasard, j'imagine ?
Alors effectivement, on sait qu'en toile de fond, il y a des difficultés structurelles dans l'administration, à l'hôpital public, on le sait. Et évidemment, ça a un impact direct sur la prise en soin. Sans doute que ça occasionne des retards, c'est possible. Je vais aller à leur rencontre. Moi, j'espère en tout cas pouvoir les rencontrer, hein, les acteurs du secteur public, les médecins, les soignants. C'est pas gagné, parce qu'ils sont en grande souffrance eux aussi en ce moment. Et ils ont très très peu de temps à accorder à autre chose que le cœur de leur travail. Mais je vais essayer de les rencontrer, de recueillir au moins leurs paroles, parce que c'est essentiel, ils sont indispensables dans le système de prise en soin. Donc effectivement, c'est un secteur qui souffre beaucoup, mais ce sera en aucun cas le cœur de ce travail-là. Moi, le cœur, c'est vraiment ceux qui font. Effectivement, on parlera de ce qui ne marche pas, mais on va aussi beaucoup parler de ce qui fonctionne.
Et vous le disiez en tout cas tout à l'heure, cette résidence et donc ce projet autour de la santé mentale des jeunes a aussi entraîné en tout cas beaucoup d'autres projets et notamment un projet auprès des scolaires. Là aussi, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, intervenir auprès des scolaires. Ce sera aussi sur ce sujet de la santé mentale ou ce sera bien plus large sur votre travail en tant que tel ?
En fait, l'idée, c'est de les mettre dans la peau d'un journaliste, et là, pour le coup, d'un photojournaliste. Mais on avait aussi très envie de les faire réfléchir autour des problématiques de santé mentale de leur âge, j'ai envie de dire. Et on a pris la décision avec les enseignants de les faire travailler sur cette problématique-là. Donc, ils vont produire une série de portraits, entretiens, des choses assez simples photographiquement, mais une série de portraits. Et ils vont mener des interviews avec leurs camarades de collège, de lycée ou d'école primaire. Et ils vont aller les questionner sur les problématiques de souffrance psychique et de santé mentale. Et tout ça sera exposé en même temps que mon travail.
Qu'est-ce que ça vous apporte aussi de faire ça ? Ou qu'est-ce que vous leur transmettez ? En tout cas, qu'est-ce que ça représente ces interventions auprès des scolaires ?
Moi, ce que je leur transmets, c'est ma manière de faire ce travail. Voilà, je suis pas convaincu d'avoir la meilleure des solutions. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais ce travail. Je ne sais pas le faire autrement. Donc moi, je leur explique mes méthodes, les raisons pour lesquelles je fais ce travail de journaliste. On casse énormément de clichés aussi là aussi, d'idées reçues sur les journalistes. C'est pas un métier qui est quand même bien reçu la plupart du temps. Maintenant, quand on dit qu'on est journaliste, hein, n'est-ce pas, on est souvent un peu il y a des grimaces souvent en réponse. Donc il faut expliquer pourquoi ce métier est important, il faut expliquer comment on le fait, on essaie de le faire bien, pourquoi on le fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on les amène, en faisant comme ça, à être curieux, à se poser des questions, à se poser des bonnes questions, y compris quand ils reçoivent des informations de grand titre. Hein. On essaie de leur mettre le doute, en fait. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça me force à me questionner aussi sur mon métier, sur la manière dont je le fais et sur les raisons pour lesquelles je le fais. Ils sont plutôt pertinents et parfois très rentre-dedans, donc c'est assez riche ces échanges.
Des interventions sont prévues à l'école primaire de Montreuil-Poulet, dans une classe SECPA du collège Jules Ferry à Mayenne et toujours à Mayenne au lycée Léonard de Vinci. En parallèle, Arnaud Rouanet est également en résidence au quartier des Pommerais dès le 16 février, la semaine prochaine, et le sera ensuite aux archives départementales de la Mayenne.
Et on va passer tout de suite à la chronique ciné du mardi, mais juste avant, pause musicale avec enfin Tout elle de Nick Waterhouse. Are you?
lost and lonely in a low home time. Did you arrive just a waiting line? Are you left thinking that there's no there there? Well, the people care till they just don't care. Keep it, did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking just like you got some notion? Do you see a mirror where I see it?
Nick Waterhouse dans la JT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on est mardi et juste avant les nouvelles sorties en salle de cinéma demain, on passe à notre chronique 7e art du jour, chronique assurée par Audrey qui nous parle aujourd'hui cuisine et plan séquence.
Bonjour l'autre radio, bonjour à tous. Pour cette semaine cinématographique du 9 février 2022, l'association Atmosphère 53, association de cinéma en Mayenne, vous propose un nouveau film coup de cœur à voir dans différents cinémas du département. Et ce film s'appelle The Chief, le chef. On est en effet du côté de la restauration et des cuisines. C'est un film anglais qui nous propose une immersion passionnante, palpitante et complètement en apnée dans les cuisines d'un très grand restaurant londonien étoilé. On suit en effet le chef Andy, qui est un chef étoilé, le jour du Magic Friday, le vendredi avant Noël, qui est la soirée la plus fréquentée de l'année. Donc c'est un restaurant gastronomique, et on voit, on est au début avec à quelques minutes du coup de feu, où tout le personnel est en ébullition, les tensions s'accumulent, les problèmes aussi personnels de chacun jaillissent un petit peu, et tout ça se mélange. La clientèle, évidemment, est très exigeante, et à la clé, évidemment, c'est l'enjeu de la sauvegarde du restaurant. Donc, tout ça se fait dans un plan séquence. Vous savez, le plan séquence, c'est le fait de filmer en un plan, en une prise. Donc, on allume la caméra et on coupe la caméra seulement à la fin du film. Donc, ça nécessite une préparation massive, énorme en amont. Et donc ce film-là, alors évidemment, c'est rare les vrais plans séquences. Souvent, on a des petites coupes comme ça. Et là, a priori, il n'y aurait que 4 coupes, ce qui est vraiment très très peu. Donc on peut vraiment parler d'un film fait en plan séquence. Selon beaucoup de restaurateurs qui avaient été interrogés à propos de ce film, c'est un film qui leur semble extrêmement réaliste. Et d'ailleurs, c'est pas très étonnant parce que le réalisateur, Philippe Barantini, a été lui-même chef et a travaillé 12 ans en cuisine. Donc, on sent vraiment que c'est un milieu qu'il connaît très bien. On retrouve vraiment ce huis clos propre aux cuisines, c'est avec ces espaces très étriqués, très contraints des cuisines, qui imposent aux personnes qui y travaillent vraiment quasiment une chorégraphie entre eux, comme ça, ils vont vite et en même temps, hop, ils essayent de pas se percuter. Et donc, il y a toute une chorégraphie des corps comme ça qui est assez impressionnante à voir. Évidemment, ces espaces contraints et petits rendent évidemment l'oppression de ce travail. Il y a du coup la question de la temporalité avec ce plan séquence qui rend, mais tellement, de façon tellement juste, la tension et l'oppression, puisqu'on suit les personnages dans leur dos quand ils avancent. Hop, d'un coup, la caméra s'attache à un autre personnage qu'ils croisent. Et on voit vraiment cet aspect comme ça très réaliste. Et par exemple, avec plein de petites touches comme ça qui parsèment le film, où du coup, juste en 2 heures de film, en 1h30 d'ailleurs exactement, on aborde tellement de sujets liés à la restauration. La tension portée à l'hygiène, les contrôles sanitaires, les tensions entre serveurs et cuisiniers ou entre cuisiniers entre eux, mais aussi la solidarité, les nerfs qui lâchent, l'enjeu des cuisines ouvertes aussi, où du coup les clients peuvent voir les cuisiniers travailler, et du coup ça rend comme s'ils étaient sur scène et comme s'ils étaient en représentation, ce qui ajoute à leur pression. En plus de tenir les timings, ils savent qu'ils sont vus, donc ils ne peuvent pas se permettre n'importe quoi. Il y a aussi le thème des addictions, puisque notamment la prise de drogue, hein, qui est propre à beaucoup de personnes qui travaillent en restauration, juste pour tenir ce rythme dingue qui est effréné, qui est imposé. On parle aussi de la concurrence et de la pression des influenceurs, des réseaux sociaux qui peuvent faire le jour et la nuit et qui peuvent décider du succès ou de la faillite d'un restaurant. On parle aussi du racisme que peut subir un serveur ou une serveuse par des clients. Enfin, tellement de sujets sont abordés, et en même temps ce lien comme ça entre chaque salarié du restaurant. C'est un film magnifique, hyper réaliste, sous tension, filmé comme un thriller. Vraiment, c'est une grosse claque et un choc qu'on vous recommande très très chaudement. L'acteur qui incarne donc ce chef étoilé Andy, c'est Stephen Graham. Il est magnifique, parfait et extrêmement crédible dans ce rôle-là. Et donc, c'est un film que vous pouvez retrouver au cinéma d'Evron et Dernier cette semaine du 9 février, et puis vous pourrez retrouver aussi un peu plus tard en rattrapage la semaine du 16 février à Goron et la semaine du 23 février à Château-Gontier. Vous en avez de la chance. Très bon visionnage. À bientôt.
Eh oui, à bientôt. J'allais la couper, Audrey. Non, bien sûr. Bon visionnage à vous. Et c'est une chronique, évidemment, que vous pourrez réécouter avec le podcast de cette émission sur notre site l'autreradio.fr. Et puis on poursuit notre feuilleton autour des bonnes idées d'activités, d'animation pour ces vacances de février. Et on bouge à Château-Gontier avec le programme local d'activités sportives, le PLACE, zoom sur le biathlon et le laser run, où 13 enfants âgés de 9 à 14 ans ont pu s'initier hier à cette pratique, tous très motivés par un sport qu'ils découvraient. Sport associant adresse et rapidité, reportage sur place à la salle du pressoir.
Tu seras plus à l'aise si tu mets ta carabine à gauche.
Je suis Samuel de la structure Horizon Sport Nature, et là je suis ici pour proposer une activité de biathlon laser run, biathlon avec des carabines infrarouges, donc sans projectiles. Et laser run, c'est des pistolets laser du pentathlon moderne. Et tout ça combiné avec des courses chronométrées avec des doigts électroniques et un système informatique avec un ordinateur qui nous donne un classement, combiné à des courses à pied chronométrées et en trottinette grande roue aussi qu'on fait dehors. Associer la concentration du tir et au dépassement de soi de l'effort physique. Après, on est sur une formule loisir. L'idée, c'est que les jeunes utilisent le matériel à maximum et passent au tir. On voit bien, c'est ça qu'ils aiment. Ouais, c'est super addictif comme activité, parce que au niveau média, le biathlon, les JO au pentathlon, enfin on le voit un peu plus à la télé, donc forcément on a déjà des images en tête. Et puis on se prend vite au jeu de la course et de réussir sa série de tirs. de une fois on va être bon au tir, une fois pas. On a aussi la concurrence des adversaires qui fait monter un peu l'adrénaline. Donc tout ça fait un bon petit cocktail ludique, sympa. Et puis ouais, les jeunes adorent ça, les adultes aussi. Mais...
Le plus dur, c'est le pistolet parce que des fois, le temps de recharger et le temps de viser, vu que... Des fois, après, ils tirent pas assez vite. Et si tu loupes, en plus, c'est plus long. Alors, du coup, on perd du temps. Si c'était la première fois, j'ai bien aimé. C'est pour le temps, pour le départ et l'arrivée. Comme ça, c'est un chronomètre qu'on met au doigt. Et comme ça, dès qu'on est arrivé, on bip et on sait le temps qu'on fait.
J'aimais bien ça, c'était marrant. Ce que j'ai bien aimé, c'était surtout le pistolet. Vu qu'au début, j'étais pas fort. Et après, je me suis plus améliorée.
J'ai voulu faire le biathlon pour découvrir ce que c'était. Enfin, un peu en regardant les JO, mais le pistolet, c'est un peu plus compliqué parce que des fois, tu bouges parce que tu trembles. J'ai gagné qu'une des courses, mais je suis déjà contente.
L'idée aussi de proposer cette activité-là, c'est de proposer une activité nouvelle avec du matériel que les jeunes n'ont pas l'habitude d'utiliser. C'est pour ça que je me déplace sur tout le Grand Ouest, en gros, pour initier à la pratique et puis mettre à disposition le matériel. Je viens régulièrement tous les ans sur des activités avec l'UNSS, sport en milieu scolaire, pour des compétitions régionales ou nationales, en sport adapté aussi. Donc voilà, c'est pas la première fois que je viens ici.
Et sans doute pas la dernière, vu l'enthousiasme des jeunes pratiquants. Il reste encore quelques places pour d'autres activités pendant les vacances. Renseignements auprès du service des sports en appelant le 02 43 09 61 50. Et demain, une fois n'est pas coutume, puisqu'on s'intéresse aux tout petits, aux 0-3 ans. C'est la fin de notre émission L'AJT du local pour aujourd'hui. Merci Andy, à demain.
Merci à toi, ouais, cette fois on se dit à demain.
C'est ça, exactement, cette fois c'est bien, à demain. Mais évidemment, les émissions à l'antenne se poursuivent. À 19h, il y aura l'Instant Jeune autour de l'orientation scolaire et du concours Miss Égalité France. Ce sera suivi à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Frères de Chaussures. Nous, on se retrouve donc demain à 12h15 avec Andy. Très belle journée à tous.